On retrouve Anne Verdaguer pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur la situation au Pérou. Le pays n'a plus de président depuis la démission du président par intérim hier. Les manifestations se sont multipliées et la répression a fait 2 morts ce week-end. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce vide politique au Pérou? On en parle avec notre invité dans un instant, Lycelle Quiroz, spécialiste de la région. On va revenir sur les élections municipales au Brésil et le revers cuisant pour les candidats du président Jair Bolsonaro sur fond de crise sanitaire dans le pays. Et puis l'ouragan Lota qui se rend force et qui menace l'Amérique centrale. Il est passé en catégorie 4 et pourrait faire beaucoup de dégâts. La situation au Pérou, pour commencer, on en parle avec Lycelle Quiroz, professeure d'études latino-américaines à l'université de Sergi. Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci à vous. Le Pérou est donc sans président depuis hier, après la démission du président par intérim, Manuel Merino. Un vide politique inquiétant, on va y revenir. Mais tout d'abord, Lycelle Quiroz, on va revenir sur l'élément déclencheur, la destitution de Manuel Vizcarra, l'ancien président, par le Parlement le 9 novembre dernier. Comment expliquer tout d'abord cette destitution ?
Oui, alors la destitution, c'est un processus qui est ouvert depuis septembre. Il y avait déjà eu une première tentative de destitution qui n'a pas eu de résultat, en tout cas favorable depuis le point de vue du Congrès. Alors le Congrès et le président Martín Vizcarra étaient dans un bras de fer autour du pouvoir. Et Vizcarra, qui avait un soutien populaire important, avait réussi à introduire des réformes, notamment en termes de corruption, qui est le problème central de la politique péruvienne. C'est une corruption structurelle. Pratiquement plus de 50% des parlementaires péruviens sont mêlés dans des affaires de corruption. Ils ont des procès. Pour l'instant, ils sont protégés par leur immunité parlementaire. Et donc, il y avait déjà cette tension entre la présidence, Martín Vizcarra, et le Congrès. Et donc là, en profitant un peu d'une période, le Pérou a été très touché par la pandémie de Covid-19. Et donc ça a joué un peu sur l'assise, disons, populaire du président. Ils ont lancé une procédure de destitution à 5 mois des élections présidentielles qui doivent se tenir en avril 2021. Et de manière irresponsable, donc ils ont... Ça s'est produit finalement le résultat qu'ils escomptaient, c'est-à-dire de destituer le président.
Alors, je reviens un petit peu sur le cours des événements, Lycelle Quiroz. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont eu lieu un peu partout au Pérou, dont une grande marche à Lima samedi qui a réuni des milliers de personnes. Ces jeunes gens, pour la plupart, rejettent ce qu'ils considèrent comme un coup d'État. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un coup d'État de la part du Parlement péruvien ?
Alors il n'y a pas eu de rupture de la légalité constitutionnelle. Il y a eu cette procédure qui était prévue par la Constitution, et puis la Constitution prévoyait également que le président du Congrès assume la présidence par intérim. En revanche, ce qu'on a vu, en tout cas dès les premiers jours, c'est quand même une volonté, et ça c'est ce que la population a senti, une volonté de prendre le dessus justement sur le pouvoir exécutif, alors que ce gouvernement, il n'a pas été élu dans les urnes. Et donc ça, on l'a senti comme un mouvement, une procédure autoritaire de la part de ce gouvernement, qui justement, alors cherchait, et on a vu également le fait qu'elle commence à organiser les choses pour se protéger justement un peu de ces possibles recherches, enquêtes qui les concernent, et puis conserver leur pouvoir et ne pas que les lois, par exemple, anticorruption, que des lois contre l'extractivisme puissent... il y avait pas mal de sujets, en fait, qui montraient que le gouvernement tentait de se protéger, notamment, ce gouvernement donc issu du Parlement, pour protéger les parlementaires et maintenir un système encore de corruption. Donc ça, c'est ce qu'a vu la population, et c'est pour ça, et c'est vrai qu'il y a eu une réponse à ces manifestations complètement disproportionnées, qui a abouti à la mort de deux jeunes hommes de 24 et de 25 ans, et plus de 60 blessés. durant ces 6 jours de manifestation. Donc, notamment, ça s'est passé le samedi 14. Donc, tout cela montre bien qu'il y a un gouvernement qui a montré en réalité une position assez autoritaire. Donc, je ne sais pas si on peut parler, je ne pense pas qu'on puisse parler de coup d'État, mais en tout cas, on peut dire que la réponse et l'autoritarisme semblaient être présents ou commençaient à donner des signes de présence durant ces tout premiers jours du gouvernement de Manuel Merino.
Alors, comment expliquer la popularité que possède encore aujourd'hui, après sa destitution, l'ancien président Viscara, popularité notamment auprès de ces jeunes qui ont manifesté en masse?
Oui, alors il est très populaire précisément parce que il avait mené cette campagne de contre la corruption, hein. C'était un peu son cheval de bataille, et en particulier contre le Congrès, en mettant en place une série de mesures pour, par exemple, ne pas renouveler automatiquement les sièges au Parlement, pour autoriser ou faciliter les recherches, les enquêtes pour corruption. Il y a un certain nombre donc de mesures pour contraindre un peu le Congrès à qu'il se réforme. Et puis il y avait une proposition aussi de réforme constitutionnelle. Tout ça a été lancé dans un référendum en particulier, qui a montré que la population désirait véritablement un changement politique.
Dont une réforme de l'éducation également.
Également, et de la constitution. Désormais, comme au Chili, aujourd'hui, la population demande aussi un changement constitutionnel, que vraiment on revoit en profondeur la politique péruvienne, y compris en revoyant la constitution.
Lycelle Quirouz, pour finir, ce vide politique, à quoi peut-il mener aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Tant que on peut s'inquiéter justement du niveau de la politique péruvienne, qui montre, parce que là, il y a eu une première présentation d'un gouvernement qui n'a pas été validé par le Congrès. On est encore en tractation pour essayer de trouver un groupe pour un gouvernement intérimaire. C'est alors que les manifestations se succèdent, alors que la population demande une stabilité politique pour qu'on puisse organiser les élections. On est déjà en campagne électorale et on ne peut pas réunir un groupe de personnes qui simplement organisent et conservent et maintiennent la démocratie péruvienne. Donc on peut avoir un peu peur que la démocratie péruvienne, qui est déjà assez instable, eh bien ne se renforce pas. L'image des politiques est très mauvaise, et entre-temps, la jeunesse demande des changements structurels et un meilleur futur, parce que vraiment, comme ils le disent, c'est une génération qui a subi la crise du Covid d'une manière particulièrement forte. Et là, elle demande vraiment que les choses changent véritablement et que la génération précédente, montre sa responsabilité, ce qui n'a malheureusement pas été le cas jusque-là.
Merci beaucoup, Lycelle Quirouz, professeure d'études latino-américaines à l'Université de Cergy. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une de votre revue de presse, aujourd'hui le premier tour des élections municipales qui s'est tenu hier au Brésil.
Oui, et comme il s'agissait là du premier scrutin depuis l'élection de Jair Bolsonaro à la présidence, il y a 2 ans, il a été suivi de très près. Le premier renseignement de ces municipales, Anne, c'est le taux d'abstention qui s'élève à 23,14%, 3 points de plus qu'en 2018 et 6 points de plus qu'il y a 4 ans, rapporte U Globo aujourd'hui. Selon l'avis des observateurs, cette abstention s'explique par la pandémie de Covid-19 qui a fait 165 000 morts au Brésil. Deuxième renseignement, le succès des partis traditionnels du centre et de la droite conservatrice, ainsi que quelques coups d'éclat surprise pour la gauche, comme à São Paulo, où Guilherme Boulos du Parti Socialisme et Liberté s'est qualifié pour le second tour. Et enfin, troisième renseignement, Anne, et pas des moindres, la cuisante défaite pour les candidats sous soutenu par le chef de l'État et par ricochet pour Jair Bolsonaro lui-même, constate la Folha de São Paulo.
Alors justement, quelles sont les raisons qui expliquent ces mauvais résultats pour le camp présidentiel, Stéphanie ?
À en croire les éditorialistes, la gestion, ou plutôt la non-gestion de la crise sanitaire de la part de Jair Bolsonaro a joué un rôle important dans ces élections municipales. Le quotidien O Estado souligne l'incapacité absolue du gouvernement brésilien à mener des réformes et à prendre des mesures sans lesquelles le pays ne se remettra pourtant pas de sitôt de la catastrophe sanitaire, économique et sociale en cours. La Folha de São Paulo fait remarquer de son côté que les maires qui ont pris des mesures pour lutter contre la pandémie et qui ont été soutenus par les gouverneurs qui prennent le coronavirus au sérieux ont généralement obtenu de bons résultats. Jair Bolsonaro a beau ignorer la science, il ne peut fermer les yeux devant les résultats de ces élections municipales qui sont un test pour sa présidence, estime l'éditorialiste Du Globo qui poursuit. Pour pallier sa chute de popularité, le président sera tenté de lancer des programmes sociaux en faveur du quart de la population qui vit désormais sous le seuil de pauvreté et de s'assurer ainsi des votes des pauvres pour sa réélection en 2022. Seulement voilà, les caisses de l'État sont désespérément vides.
Direction les États-Unis. À présent, Stéphanie, le pays a enregistré en moins d'une semaine 1 million de nouvelles infections au Covid-19. La barre des 11 millions de cas a été franchie hier.
Et comme la tendance est à la dégradation de la situation, de plus en plus de villes prennent de nouvelles mesures pour tenter de freiner la propagation du virus. À l'instar de Chicago dans l'Illinois, où la maire Lori Lightfoot a recommandé à ses 2,7 millions d'administrés de ne pas recevoir aucun invité et d'annuler les traditionnelles fêtes de Thanksgiving. Il s'agit là que de recommandations, souligne le Chicago Tribune aujourd'hui. Mais le journal prévient que les réunions privées sont, de façon obligatoire, limitées à 10 personnes maximum. La maire a aussi appelé les habitants de Chicago à éviter à partir de ce lundi les sorties, sauf pour les déplacements essentiels, dont le travail et l'école.
Et à Chicago et dans ces villes de banlieue, l'ouverture des écoles dépend des décisions des élus locaux.
Et ces élus sont sous pression, explique encore le Chicago Tribune. Les parents d'élèves exigent la réouverture des classes qui ont dû fermer, alors que les syndicats d'enseignants réclament le passage aux cours en ligne face à la propagation du virus dans certains établissements scolaires.
Direction Cuba, à présent, voilà plus de 7 mois qu'il n'avait pas accueilli de vols commerciaux. L'aéroport international de La Havane a rouvert ses portes et son tarmac. Le pays considère avoir contrôlé l'épidémie de Covid-19 avec 7590 cas sur 11 millions d'habitants. Et désormais, l'objectif numéro un, c'est d'accueillir à nouveau les touristes internationaux. Secteur crucial pour l'économie cubaine. Le reportage à La Havane de Domiti Piron.
Aeropuerto José Martí, listo hacia la nueva normalidad.
L'aéroport José Martí de La Havane, prêt pour la nouvelle normalité. C'est ainsi qu'on appelle ici la situation, adaptée à la présence du coronavirus. À l'arrivée à l'aéroport, un test PCR sera effectué à tous les voyageurs qui devront payer une taxe sanitaire de $30 afin de couvrir les coûts du protocole de sécurité mis en place par Cuba. Les touristes seront ensuite amenés à s'isoler durant quelques jours, comme l'explique le docteur Durand, en charge du suivi de l'épidémie dans le pays.
Un voyageur qui entre dans notre pays devra refaire un test PCR au 5e jour, parce qu'il arrive que le jour de l'arrivée, le virus ne soit pas encore détectable. Et au 5e jour, il peut apparaître. Donc le voyageur devra limiter ses déplacements durant 5-6 jours.
Cuba rouvre ses frontières avec un protocole sanitaire strict, car le pays a besoin du tourisme après plus de 8 mois de fermeture, mais ne peut pas se permettre une crise sanitaire. En grandes difficultés économiques aggravées par les sanctions américaines, le pays fait face à l'épidémie dans un contexte de crise économique et compte sur le tourisme pour relancer l'économie. Domiti Piron, La Havane, RFI.
L'Amérique centrale, Stéphanie, se prépare tant bien que mal à l'arrivée de l'ouragan Iota qui doit toucher terre cet après-midi le long du littoral caribéen entre le Nicaragua et le Honduras.
Oui, et selon le Centre national des ouragans à Miami, Iota est désormais un ouragan de catégorie 4 dans la classification qui en compte 5 échelons et il s'avère particulièrement dangereux puisqu'il avance lentement. Au Honduras, les autorités ont procédé durant tout le week-end à des évacuations obligatoires par canot. avionneaux et hélicoptères, écrit El Heraldo. Selon le journal, 18 départements du pays ont été placés en alerte rouge. La situation au Honduras et au Nicaragua est particulièrement critique, Anne, parce que Iota suivra probablement le même parcours que l'ouragan Eta, qui a fait au début du mois plus de 200 morts. Le Guatemala et le Panama s'attendent également à des pluies diluviennes. Les pluies torrentielles qui précèdent Iota ont d'ores et déjà inondé plusieurs régions en Colombie, où des milliers de personnes se trouvent piégées dans des abris provisoires, rapporte aujourd'hui El Espectador. Le journal évoque aussi des glissements de terrain qui ont touché les départements d'Antioquia dans le nord-est du pays, ainsi que celui de Chocó à la frontière avec le Panama.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, assurer la continuité du service jusqu'à la mise en place d'un syndicat unique de l'eau. Le conseil départemental de la Guadeloupe ne veut même pas en entendre parler.
Oui, en attendant l'arrivée du fameux syndicat unique, l'État voudrait bien imposer aux deux collectivités, départements et régions, de mettre au pot, comme on dit, pour faire la soudure entre la dissolution de l'actuel syndicat, le SIAG, en janvier prochain, et l'arrivée de la nouvelle structure en septembre prochain. Septembre 2021. Réponse de Josette Borel-Lincertin, la présidente du département, dans un courrier adressé au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Il ne saurait une seule seconde en être question. Colette Borda.
Dans une plume à la fois soignée, étayée et directe, le conseil départemental dit non, non à tout engagement financier durant cette période dite transitoire. D'une part, rétorque Josette Borel-Incertain, la méthode ministérielle est à revoir. Cette injonction est inacceptable, appuie-t-elle, d'autant qu'il n'y a pas eu de concertation ni d'échange préalable. Ensuite, indique la présidente de collectivité, un tel engagement imposerait une dépense mensuelle de 3 millions d'euros, soit 27 millions sur 9 mois, sans parler des questions de légalité qui soulèverait. Au vu notamment de l'explosion du nombre de bénéficiaires du RSA, le département ne peut se le permettre. Enfin, rappelant ses réalisations depuis 2015, dans un domaine dont il n'a pourtant pas la compétence, le conseil départemental renvoie à l'État à ses responsabilités et implications dans ce dossier plutôt trouble. C'est à lui, par exemple, de renforcer la procédure de recouvrement des créances dues au SIAG, qui pourrait lui accorder quelques mois de répit. Et c'est en premier lieu à lui de se mouiller financièrement.
Direction la Martinique maintenant, où la précarité serait en train, hélas, comme ailleurs, de gagner du terrain. C'est en tout cas l'INSEE qui l'affirme, avec 29% de la population martiniquaise qui serait en dessous du seuil de pauvreté. Des chiffres confirmés d'ailleurs par les gens qui travaillent sur le terrain. Écoutez l'assistante sociale Viviane Camaraman au micro de Dominique Legros.
Nous faisons appel au programme d'aide de l'action sociale du service habituel, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'aides qui sont déjà prévues dans le programme d'action sociale. Et à ce moment-là, en fonction de leur situation, nous solliciterons une aide. Alors cette aide est toujours ponctuelle, bien entendu, puisque le service social n'a pas vocation à aider de façon permanente. Et si le besoin se fait sentir, ben, il peut être mis en place un petit accompagnement de façon à aider ces personnes à reprendre un peu le contrôle de leur budget. Alors, des aides financières uniquement, puisque c'est la demande qui est faite, du fait de la baisse de revenus. Le chômage partiel a entraîné des baisses de revenus. Certaines personnes ont dû quitter leur logement, d'autres ont vu se créer une dette locative. Il y a eu un certain nombre de situations comme ça qui ont découlé du premier confinement et qui les ont fait basculer dans une situation de précarité. Des personnes qui jusque-là ne faisaient pas appel aux services sociaux.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain. Merci à vous et bon après-midi, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la Radio du Monde tout de suite. Votre émission sur la francophonie de vive voix avec Pascal Paradou, et on parlera notamment théâtre avec Guy Régis Junior pour le festival Quatre Chemins à Port-au-Prince. Restez avec nous. Très bonne journée à tous.
cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.